Tous tes sœurs qui ont travaillé toute la nuit et qui n'ont rien pris, qu'est-ce qu'il leur dit? Enfants, avez-vous quelque chose à manger? Vous ne pas que c'est beau? C'est tendre. Puis se fait cuisiner. Le ressuscité cuisinier. Il trouve tout préparé. Ils sont fatigués. Lui, il a passé par la croix, il a passé par la mort, par le tombeau, puis c'est lui qui fait le dîner. C'est merveilleux, Seigneur. Contemplez-le, ce que nos yeux ont contemplé, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont touché. Et il trouve là le repas tout préparé, tendresse de Jésus, sa patience. Il y a des moments où il leur dit, mais jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Ben, il a été jusqu'à la fin. La patience de Jésus. Son dévouement. Alors qu'on sait qu'on devrait faire le service et qu'il ne faut pas laisser le Seigneur faire le service, ils se mettent tous à table. Ils sont tous fatigués, ils ont eu une grande journée. Comme si Jésus n'avait pas eu la même journée. Personne n'a lavé les pieds. Ce qu'on devait faire, selon les règles de l'hospitalité, puis de la propreté. Parce que quand on couche sur des sofas, là, sur les lits que l'on avait pour manger ce temps-là, il fallait avoir les pieds lavés. Nous, voilà, on est russes, on est chrétiens, enfin, ils n'étaient pas encore chrétiens, mais disciples, apôtres. Ils ne savaient pas même ce qu'on dire. Ils s'installent. Ils sont installés. Alors Jésus se lève, comme une vraie mère. Si les enfants ne font pas le service, c'est la mère qui se lève, qui fait le service. Qui prend un bassin et puis qui va laver les pieds aux uns aux autres. Mais vous vous dites, ben, si moi j'avais été là, j'aurais pris le bassin. Vous croyez? Vous ne connaissez pas encore. Mais même l'apôtre Pierre lui dit, ah non, pas ça. Hein. Ça jamais une vanne de laver les pieds. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Donne-moi le bassin, je vais continuer. Il n'a pas dit ça. Il a dit, mais non, tu ne vas pas me laver les pieds. Mais il n'a pas dit, je vais continuer. Vous lavez les pieds des autres, là. Puis alors, quand Jésus lui dit, mais si je ne peux pas te laver les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Alors, il renverse la vapeur, Pierre, puis dit, alors lave-moi complètement, hein. Va te faire tout. C'est comme ça que nous sommes, nous, les chrétiens. On est des déséquilibrés. Il dit, celui qui a tout le corps lavé n'a plus besoin d'avoir les pieds lavés. Parce que c'est dans la mort qu'on risque d'avoir des souillures. Alors, on n'a plus besoin que d'avoir les pieds lavés. Si vous croyez au Seigneur Jésus, vous êtes purs. Mais, quotidiennement, vous devez vous juger des souillures du chemin, parce qu'on est dans un monde où c'est plein de péchés et où on risque aussi de contacter la souillure. Alors on a besoin de cette purification quotidienne et de se laisser purifier par le Seigneur. On a affaire avec lui, on est en relation avec lui. Comprenez-vous? C'est ça le connaître, c'est une relation avec lui. Bien, voyez son dévouement, voyez sa sainteté quand il disait à ceux qui l'accusaient, qui d'entre vous me convaincra de pécher? Tout le monde avait la bouche fermée. Il était la sainteté parfaite. Parlons de son amour. Il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci, de donner sa vie pour ses amis. Et il a donné sa vie même pour ses ennemis. Contemplez la personne du Fils de Dieu. Mais regardez-le maintenant dans la gloire. Eh bien, cette vie-là, c'est notre vie. Son dévouement doit être mon dévouement. Je ne vais pas attendre qu'on me lave les pieds, je peux essayer de laver les pieds des autres, dans l'humilité et pas avec de l'eau bouillante. N'est-ce pas? Avoir des égards, même si on doit reprendre son frère. Quant à son humilité, jamais le Seigneur a pensé à lui-même. Une complète dépréoccupation de lui-même. Il pensait toujours aux autres. Et c'est cela qui doit caractériser le chrétien. Le chrétien est toujours centré sur lui. Il veut des bénédictions, il veut une vie de victoire. Mais c'est peut-être encore pour qu'on le regarde. Non. Il nous faut disparaître. Notre vie vraie, elle est cachée où ? Dans le Christ, en Dieu. Un jour, c'est lui qui nous montrera. Nous, on s'est trop montré. On s'est tellement montré qu'on ne croit plus. Parce qu'ils nous ont trop vus. Il faut qu'on le voie, lui. Et que nous disparaissions. Il était doux et humble de cœur. Il est la vérité. Il est la justice. Alors la mesure de notre vérité, c'est lui. Il a été fait notre sagesse, notre sanctification, notre rédemption. C'est lui qui est tout cela en nous. Alors, il ne nous demande pas de l'imiter, il nous demande simplement nos corps pour pouvoir vivre cette vie en nous. Acceptez-vous l'échange de vie. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Quelle œuvre faut-il faire pour entrer en possession de cette vie ? Mais, il faut d'abord la connaître, cette vie, savoir si on en a envie, si on en a vraiment le désir. Et puis, si on nous dit de quelle œuvre de Dieu devons-nous faire pour être sauvés ? Jésus répondait, c'est ici l'œuvre de Dieu que vous croyez à celui qui m'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est de croire. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez ce que Jésus est? Est-ce que vous croyez le témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils? Est-ce que vous croyez cela? Que c'est lui qui est la vie, la vraie vie. La vie est dans son Fils. Avons-nous lu dans le chapitre 5 de la première épître de Jean, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Je vous ai dit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est la vie vraiment véritable, la seule digne d'être vécue. Alors, comment est-ce que je peux m'approprier cette vie? Eh bien, nous avons dit que c'était par la foi. Je crois, mais la foi, elle vient de quoi? Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comprenez-vous? Alors, si vous voulez avoir la foi, si vous voulez que votre foi augmente, ayez affaire avec la parole de Dieu. Et vous serez béni, vous serez heureux, vous serez enrichi, et vous expérimenterez que ce n'est plus vous qui vivez, mais que c'est lui qui vit en vous. Seigneur notre Dieu, à la fin de cette heure, nous voulons vraiment te demander que, par ton esprit, nous puissions vraiment te contempler. Et qu'en te contemplant, rassasiés de ton image, nous puissions refléter quelque chose de ta bonté et de ta beauté. Et que ce monde qui nous entoure, au lieu de nous entendre toujours parler de toi, puisse voir ta vie en nous et peut-être nous questionner aussi sur l'espérance qui habite dans nos cœurs et qui fait que dans la pratique, nous ne sommes pas comme tout le monde, qu'on peut croire notre parole, qu'on peut faire confiance à la parole donnée, que dans nos travaux, nous nous appliquons à faire toutes choses, même dans le détail, comme pour le Seigneur, que c'est toi notre boss, notre patron. Tout ce que l'on entend dire aujourd'hui, et que quand nous enseignons aussi aux autres, que nous puissions nous souvenir que toi aussi tu étais enfant, et que nous puissions aimer comme tu as aimé, nous mettre à la portée de tous,
c'est la grâce que nous te demandons. Et nous croyons que tu nous exauces. Parce que ces choses-là sont selon la volonté du Père. Et tu nous dis que si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, nous savons qu'il nous écoute. Et nous savons que nous avons les choses que nous lui avons dites. Qu'il en soit ainsi pour nous. Jusqu'à ce que tu viennes. Amen.
Mes amis, en cette fin de journée de ce samedi 4 octobre 1986, nous abordons notre troisième exposé sur ce thème « Vivre de la vie d'un autre » en nous souvenant encore une fois de la parole que le Seigneur nous a donné en ce jour, parce que moi, je vis, vous aussi, vous vivrez. Et nous espérons que cette parole reçue le 4 octobre sera pour vous dans votre mémoire, dans votre cœur et par le Saint-Esprit, elle se réalisera. Puisque Jésus vit, vous aussi, vous vivrez. Et je voudrais encore vous lire une autre parole qui est presque à la fin de la Bible, dans l'épître de Jude, nous lisons ceci. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Seigneur, par Jésus-Christ, notre Sauveur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à ces paroles? Oh, je veux le croire. À celui qui peut. Nous ne pouvons pas. Mais quelqu'un peut. C'est le Dieu de l'impossible. Si nous sommes dans l'impossibilité, avec nos propres forces, de glorifier Dieu sur la terre, lui peut se glorifier en nous si nous lui abandonnons réellement notre vie, comme l'a fait la mère bénie de notre Seigneur, Marie, qui a pu dire « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et ce qui était impossible aux hommes a été rendu possible par l'obéissance d'une jeune fille qui a consacré son corps à l'œuvre que Dieu voulait opérer pour le salut du monde. Et nous, aujourd'hui, à la fin de ce 20e siècle, nous n'aurions rien à apprendre de ce qui s'est passé au début de ce qui devait être l'ère chrétienne. Nous croyons que celui qui a accompli une telle œuvre au début de cette ère n'a pas changé, qu'il peut encore, par sa toute-puissance, opérer dans chacune de nos vies, même dans ces temps si difficiles, ces temps qui sont les derniers, comme l'ont annoncé les apôtres, et comme nous l'a enseigner le Seigneur, car nous sommes dans les derniers temps. La venue de Jésus sur la terre a constitué la dernière heure. Le dernier mot de Dieu à l'humanité pour la sauver, ça a été Jésus-Christ. Il a parlé de plusieurs manières, en divers temps, par les prophètes, mais dans ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé en Fils. Il nous a parlé dans l'incarnation de Jésus-Christ. Jésus-Christ a paru le dernier, c'est le dernier mot de Dieu à l'humanité. Et si vous ne mettez pas aujourd'hui votre confiance en Jésus-Christ, eh bien vous êtes désespéré. Et vous participez à toutes les peurs du monde. Alors que Jésus, dans la nuit où il fut livré, pouvait dire à ses disciples, « Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » L'avez-vous reçu, cette paix de Dieu, qui ne dépend plus des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, mais qui a sa source dans son cœur de Père. Ce cœur de Père, que son Fils unique et bien-aimé est venu nous faire connaître. Car si la nature entière nous parlait de la puissance de Dieu, de sa divinité, il y avait une chose que nous ne connaissions pas, c'est son caractère. Et nous avons appris en Jésus-Christ que ce Dieu était un Père, et un Père au cœur de mère. Cela ne vous dit-il rien? Comme quelqu'un que sa mère console, ainsi je vous consolerai, dit le Seigneur. Et vous pouvez connaître, dans une relation personnelle et vivante avec Dieu, relation qui ne peut avoir lieu qu'avec Jésus-Christ, qu'à travers Jésus-Christ, vous pouvez connaître cette tendresse du Père qui vous accompagnera jusqu'à votre dernière heure, jusqu'au dernier jour, et qui même, si nous devons traverser cette vallée de l'ombre de la mort, sera avec nous. Bon berger, il ne nous abandonnera pas. Il ne nous laissera pas pour nous accueillir dans la paix et dans le repos qu'il a voulu nous acquérir par la croix du calvaire. Eh bien, mes amis, ce soir, nous avons à répondre dans ce troisième exposé, « Vivre de la vie d'un autre », à ces questions, ces trois questions que vous avez méditées dans le silence de vos chambres, cherchant à écouter ce que Dieu avait à vous dire. Questions aussi que vous avez pu éclairer en prenant les Écritures que nous croyons être la parole inspirée de Dieu, cette parole qui est capable de nous donner des convictions dans un monde où il y a tant d'opinions divergentes, la parole de Dieu donne à celui qui l'écoute des convictions. Mais cette parole commence par nous corriger de toutes les idées personnelles que l'on peut avoir ou des idées qui sont reçues dans le monde. Il y a tout un enseignement qui est donné aujourd'hui et qui n'est pas nécessairement, malgré les titres de ceux qui enseignent, l'enseignement de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne voulons connaître personne selon la chair. N'être impressionné par aucun des titres que les gens peuvent posséder, même des théologiens, nous voulons simplement nous remettre à l'école de Jésus-Christ, qui n'a pas parlé pour une élite, mais qui a parlé pour être compris, pour les sages, non. Pour les intelligents, non. Pas les sages et les intelligents de ce siècle. Mais pour des petits-enfants. Pour ceux qui ont encore un cœur d'enfant et qui croient.
Eh bien, nous voulons demander à Dieu qu'il nous donne ce cœur d'enfant et cette réceptivité pour recevoir ces paroles, pour qu'elles ne soient plus, comme je l'ai dit souvent, dans les couvertures d'un livre, mais qu'elles soient dans nos cœurs. Et que par le Saint-Esprit qui devient notre mémoire, cette parole nous soit toujours rappelée dans la vie quotidienne, pour que nous soyons influencés par cette parole, qui deviendra, ce que le psalmiste disait, une lampe à vos pieds et une lumière sur votre sentier. N'est-ce pas merveilleux d'avoir une telle parole et un tel secours, de pouvoir communiquer avec Dieu par la prière, où que nous soyons, notre pensée devient une prière, et c'est une vraie échelle de Jacob qui est dressée entre le ciel et la terre. Nos demandes montent au trône de la grâce, et les réponses de Dieu descendent dans notre cœur. Est-ce que vous êtes des hommes et des femmes, vous qui portiez le nom de chrétien, à quelque dénomination que vous apparteniez, est-ce que vous êtes des hommes et des femmes qui peuvent dire que Dieu leur répond, que Dieu les exauce, que Dieu n'est pas sourd, que sa main n'est pas affaiblie, et que vous connaissez la puissance de son bras? Oh, je veux le croire. Parce qu'il faut que le monde voie des hommes et des femmes qui se sont donnés entièrement, pas à moitié, mais entièrement à ce Seigneur de gloire qui nous promet de nous faire paraître, lui, par son œuvre, par son affection pour nous, par le travail de son esprit, il nous promet de nous faire paraître un jour irréprochable et irrépréhensible devant lui. Ça, je sens que moi, je ne peux pas y arriver. Mais si lui le dit, qu'il entreprend cette œuvre, et que même en Jésus-Christ sur la croix, il a déjà tout accompli pour que cette œuvre soit une réalité, nous pouvons le croire. Parce que s'il est une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir. Vous êtes d'accord? Dieu ne peut pas nous mentir. Alors à nous de le croire et de lui dire qu'il a dit, Seigneur, dans ta parole, eh bien je le crois. C'est ça, croire Dieu. C'est pas croire que Dieu existe, mais c'est croire ce qu'il nous a dit. C'est croire sa parole. Alors cette parole donc doit nous corriger, doit nous instruire pour nous rendre accomplis, pour faire de nous des adultes, des hommes faits, pas simplement des petits-enfants ballottés ça et là par tout vent de doctrine. Oui, nous devons avoir un cœur d'enfant pour recevoir la parole, mais une fois que nous avons reçu la parole, nous devons devenir des fils. Nous devons grandir, nous devons devenir des fils qui connaissent les pensées de leur père et qui ont du bonheur de vivre dans la communion de ce père et de son fils Jésus-Christ. Alors, ce soir, nous avons posé ces questions 7, 8 et 9. Donc, vous voyez, nous allons progressivement dans notre enseignement et nous vous demandions ceci. Selon les Écritures, suffit-il de croire en Jésus-Christ pour être sauvé et avoir une vie nouvelle, ou faut-il vraiment passer par cette naissance dont parlait Jésus à Nicodème? Et nous vous proposions, pour éclairer votre réponse à cette question, de lire l'évangile de Jean au chapitre 2, parce que nous désirons une chose, c'est que vous ne receviez pas ici l'enseignement d'un homme, mais que vous reveniez à ce que Jésus lui-même a dit. Notre mission n'est pas de former un groupe à nous, mais de remplir vos cœurs à quelque milieu que vous apparteniez, de remplir vos cœurs de Jésus-Christ. Et quand vous retournerez dans vos milieux, quelle que soit votre église, nous espérons que votre cœur débordera tellement de Jésus-Christ que vous serez en bénédiction aux âmes que vous allez retrouver. Que ce soit dans votre foyer, pour votre femme, pour votre mari, pour vos enfants, pour vos proches d'abord, parce que nous sommes d'abord responsables envers les gens de notre propre maison. Et c'est eux qui doivent voir notre transformation, non pas un changement de religion, mais un changement de vie, un changement d'orientation, un changement de mentalité. Au lieu de juger les autres, vous allez les aimer. Manifestez que vous connaissez l'amour de Dieu et qu'il a été réellement versé dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui vous a été donné. Et alors, le monde verra que vous êtes vraiment disciples de Jésus-Christ, de celui que nous avons cherché à contempler ce matin. À le contempler, lui, pour le refléter. Nous ne pouvons pas l'imiter par nos propres efforts. Hein. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de le contempler. Et il est dit que quand nous contemplons à visage découvert la face du Seigneur, au lieu de regarder la face des hommes, hein, parce que si nous regardons les hommes, nous reflétons quoi ? Leur misère, hein, peut-être leur qualité aussi, mais aussi leurs défauts. Tandis que si vous contemplez le Seigneur, vous refléterez le vrai modèle. Celui dont Dieu a dit, c'est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection, écoutez-le. Alors, notre désir ce soir, c'est vraiment de l'écouter et de nous laisser, en le contemplant, transformer à son image et à sa ressemblance. Selon le dessein éternel de Dieu, ce dessein que nous avons étudié, qui était son dessein dès avant la création du monde, quand il a créé l'homme, il l'a fait selon un plan, il le prédestinait à être semblable à quelle image ? L'image de son fils bien-aimé. Et Dieu n'a pas renoncé à son dessein malgré la désobéissance d'Adam, malgré sa chute. Il a introduit le plan de la rédemption pour racheter l'homme et l'amener quand même, mais par un chemin plus long et par les souffrances évidemment qu'ont occasionné notre désobéissance, nous subissons les conséquences de nos inconséquences, eh bien il nous amène quand même à la gloire éternelle, mais il n'y a qu'un chemin pour y parvenir, celui qui l'a dit il y a bientôt 2000 ans, c'est qui ? Jésus-Christ. Je suis le chemin, je suis la voie. Mais évidemment, cette voie, les hommes ne veulent pas la suivre. Alors, ce n'est pas étonnant que ça aille si mal. Je suis la vérité. Mais qu'est-ce que l'on préfère ? Nos vérités. Chacun notre vérité. Or, Jésus a dit qu'il est la vérité. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit encore ? Je suis la vie. La vraie vie, mais qu'est-ce que c'est que pour vous la vie ? Demandez un peu autour de vous, questionnez un peu ceux que vous rencontrez, qu'est-ce que c'est pour toi la vie ? Vous serez effrayés des réponses. Qu'est-ce que c'est la vie ? Mais pour vous, qu'est-ce que c'est que la vie ? Est-ce que vous pouvez dire spontanément ce que Paul disait ? Mais c'est le Christ. Pour moi vivre, c'est Christ. Pour moi vivre, c'est le Christ. Le Christ en moi, c'est déjà, dit Paul aussi, l'espérance de la gloire. Il nous a fait grâce, et qu'est-ce qu'il nous réserve après la grâce ? La gloire. On a vu cela cet après-midi. Il donne la grâce, et ensuite, la gloire. Oh, que le Seigneur nous parle, et que nous soyons vraiment imprégnés des Écritures. Je vous ai demandé de lire dans l'Évangile de Jean pour répondre donc à cette question, est-ce qu'il suffit de croire en Jésus-Christ pour être sauvé et avoir une vie nouvelle ? Au chapitre 2 de cet Évangile, au verset 23e de cet Évangile, nous voyons Jésus à Jérusalem. Il a quitté la Galilée, il est allé à Jérusalem, et il est dit ceci, verset 23, Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom. Donc ils ont cru, il est dit qu'ils ont cru en son nom. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont cru en son nom? En voyant les miracles qu'il faisait. Alors, hein, on voit des miracles. Et aujourd'hui encore, hein, on voudrait voir des miracles. Ah si, on voyait des miracles, on croirait. C'est pas vrai. Ne croyez pas à ceux qui vous évangélisent ainsi, qui vous disent, hein, si on a la puissance, on fera des miracles et vous verrez bien, le monde se convertira. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a eu un temps où il y a eu des miracles, c'était au temps de Jésus. Et malgré qu'il eût fait tant de miracles, est-ce que les gens ont cru? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont crucifié. Et vous croyez que le monde a changé? On veut des miracles. On veut des émotions. On veut voir. Alors que le ressuscité a dit à Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous voulons que vous restiez dans le chemin de la foi et que vous puissiez croire même sans voir. Être de ceux qui connaissent cette béatitude qu'apporte la foi. Nous ne marchons pas dans le sensible. Ce ne sont pas nos sentiments que nous voulons croire, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul lui-même, il a refusé de faire des miracles. Il savait très bien que les Corinthiens auraient voulu des miracles. Les Juifs réclamaient des miracles. Les Grecs réclamaient la sagesse. Et qu'est-ce qu'il leur a présenté? Ni miracle, ni sagesse. Pourtant, il était un sage, Paul. Il aurait pu leur citer des auteurs grecs et montrer toutes ses connaissances qu'il avait même acquises au pied d'un grand maître, Gamaliel à Jérusalem. Il a oublié tout cela et il leur a présenté une folie. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Il n'a pas essayé, comme beaucoup de prédicateurs le font aujourd'hui, de rendre moins scandaleux la croix. Il faut que ça vous scandalise, la croix. Parce qu'est-ce que ça vous montre? Ça vous montre que l'homme, s'il était capable de tenir Dieu dans sa main, qu'est-ce qu'il en ferait? Et qu'est-ce qu'il en a fait? De la crucifier. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous émeut pas? Ça ne vous émotionne pas? Et de me dire que c'est à cause de moi, à cause de mes péchés, ou de mes péchés, confusant. Moi, je n'ai que des péchés mignons. Tellement mignons, ça a conduit le seul qui n'avait pas péché sur la croix. Et votre cœur ne serait pas touché à la fin de ce 20e siècle. Péchés mignons. Vous les voyez, les péchés mignons dans ce monde. C'est une chose terrible. Voyez-vous, il est dit, Jésus ne se fiait pas à eux, à ceux qui croyaient parce qu'ils avaient vu des miracles. Pourquoi? Il ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et vous savez, le Seigneur nous connaît. On peut dire que nous, on connaît le Seigneur, mais lui, il nous connaît. Et puis, on peut avoir un masque même religieux, un masque que l'on met quand on va aux offices, quand on va au culte, quand on va dans notre église, dans nos réunions. Alors on a son masque, hein, beau masque. Vous connaissez beau masque? Jetons loin notre masque. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des pécheurs qui avons besoin du pardon de Dieu, qui avons besoin de l'intervention de Dieu. Parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et nous vous avons rappelé ce qu'il voyait dans l'homme, dans le cœur de l'homme. Nous qui disons si souvent, mais vous savez, on a quand même un bon fond. Oui, hein. On est pécheur. Ça gêne personne de dire qu'il est pécheur. C'est pourquoi faites très attention quand vous voulez, soi-disant, ayant connu le plan du salut, comme quelques-uns le disent quelquefois, moi je peux exposer en quelques minutes à une âme le plan du salut. J'ai même une carte, j'ai même des moyens pour cela, puis il n'a qu'à cocher. Est-ce que vous reconnaissez que Dieu vous aime? Je coche. Bon. Pourquoi tu ne m'aimerais pas, hein? Est-ce que vous reconnaissez que Jésus est le sauveur? Pourquoi tu ne serais pas le sauveur? Je coche. Bon. Et puis, on nous a toujours dit qu'il était le sauveur. Hein? Et puis, après, il y a un troisième point. Est-ce que vous reconnaissez, oui, que vous êtes pécheur? Tout le monde est pécheur. Hein? C'est pas humiliant. Donc on coche. Dieu nous aime, on est des pécheurs, on nous dit que Christ est le sauveur, on coche. Alors, quatrième point, la Bible vous dit que vous êtes sauvés. Ça, vous cochez, vous signez, vous donnez votre adresse, et puis vous avez votre billet dans votre poche. Vous êtes sauvés. Le salut, n'y a qu'à. Il n'y a qu'à croire. Crois, Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Alors, on sort un verset biblique. Mais quand Paul a dit au geôlier de Philippe qui allait se suicider, il fallait aller vite, hein. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il allait se jeter sur l'épée. Alors ne sortez pas le texte de son contexte. C'était quelque chose d'urgent. Et ils l'ont arrêté pour qu'il ne se suicide pas. Puis le geôlier les a fait monter dans sa demeure, après pourtant les avoir battus avant, hein, quand il les avait mis en prison. Et il est dit que Paul et Silas leur a enseigné les choses qui concernent Jésus. C'est pas le salut, n'y a qu'à. Paul a pris le temps de leur enseigner. Et s'ils ont été baptisés, lui et tous ceux qui étaient dans sa maison, c'est qu'ils ont tous entendu l'évangile et ils ont cru, et ils ont reçu le signe de leur foi dans le baptême, qui était le signe de la foi au Seigneur Jésus. Alors, faites attention que vous sortez un verset biblique et que vous voulez sauver une âme en 4 minutes, parce qu'on vous dit, si vous êtes conseillé, par exemple, dans une de ces missions quelconques, il faut que vous fassiez vite, hein, parce qu'on veut vraiment atteindre tout le monde. Alors les gens se croient convertis. Bon ben, si vous voulez continuer de faire ça, faites-le, c'est votre affaire. Mais attention, veillez à ce travail que l'on vous fait faire peut-être, en vous faisant croire que vous faites une bonne œuvre, alors que vous devenez un piège pour cette âme. Parce que tout, après lui avoir dit qu'elle était sauvée, elle verra qu'elle a toujours les mêmes tendances, toujours les mêmes habitudes, et que même elle est pire qu'avant ses réunions. Hein? Elle balancera tout cela. Et elle ne voudra plus croire aux vérités qu'il aurait pourtant. Et on a orchestré tout cela pour que ça donne des résultats. Vous croyez que je vois Jésus faire cela? À ceux qui disaient qu'ils voulaient le suivre, qu'est-ce qu'ils disaient? Tu sais ce que c'est que me suivre? Il faut que tu renonces à toi-même. Ça, c'est le langage biblique. Ça, c'est le langage évangélique. Et puis, ce qu'il promettait, c'était la croix. Ce qu'il promettait, c'était les souffrances. Il ne disait pas que la vie serait la vie en rose. Il disait qu'il y aurait des souffrances. Mais c'était des souffrances valables. Souffrir avec le Christ, souffrir pour le Christ, ça vaut la peine. Et ce sera votre sujet de gloire. Si vous avez souffert avec Christ, un jour, vous régnerez avec Christ. Mais je ne puis pas penser un seul instant que dans un monde qui a crucifié mon Seigneur et qui continue à le crucifier par ses œuvres, je ne peux pas penser un seul instant que moi je régnerai. Je ne peux pas régner où le Christ a été crucifié. De sorte que si je suis vraiment son disciple, qu'est-ce que je serai? Un crucifié aussi. Dans ma chair. Mais je sais que si j'endure ces souffrances, eh bien, un jour, je régnerai avec lui. Et ce que je sais aussi, c'est que les souffrances du temps présent, parce que c'est l'Écriture qui me le dit, ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui doit nous être révélée. Car, comme le dit l'apôtre Pierre, la souffrance du temps présent, on l'a que pour un temps. Qu'est-ce que c'est que notre vie? Tandis que si vous croyez que tout n'est pas fini par la mort, qu'il y a l'éternité, les souffrances du temps présent vous préparent un poids éternel de gloire. C'est fantastique. Et c'est ça qui est vrai. Et c'est cela qui doit nourrir votre pensée. Et ce sont ces paroles qui doivent habiter dans votre cœur avec une réelle abondance. Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Et il nous a dit ce qu'il y avait dans le cœur des hommes. Les mauvaises pensées, chapitre 7 de Marc, verset 21, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Voilà ce que Dieu sait qu'il y a dans l'homme, dans le cœur. Vous direz, mais pas moi, dans mon cœur il n'y a pas tout cela. Si vous en êtes encore là, c'est que vous ne vous connaissez pas vraiment. Mais quand on s'est vu dans la lumière de Dieu, et je vous le répète, tous les hommes de Dieu de l'Écriture, et tous les hommes de Dieu au travers de l'histoire de l'Église, qui ont eu quelques rapports directs avec Dieu, ils se sont tous effondrés. Personne n'a été triomphaliste devant ce que Dieu est, devant la révélation de sa sainteté, de sa justice, de sa vérité, l'on reconnaît toute notre misère. Que ce soit un Ésaïe, que ce soit un Job, que ce soit un Moïse, tous ces hommes, que ce soit l'apôtre Pierre, devant la pêche miraculeuse, il a dit « Retire-toi de moi, Seigneur, je suis un homme ». Pécheur. Et pourtant, c'est le grand confesseur de la foi chrétienne. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il l'a dit. Et notre foi repose sur cette confession de Pierre, que le Christ est vraiment le Fils du Dieu vivant. Donc, vous l'avez compris, ça ne suffit pas de dire qu'on croit au Seigneur. Plusieurs crurent en lui, mais il n'était pas réellement sauvés. C'était une impression qu'ils ont eue. Et alors, quand après cela, un pharisien, un homme religieux, Nicodème, qui lui aussi, tout en étant un docteur de la loi, avait pu entendre Jésus et voir les miracles qu'il faisait, lui aussi il avait été impressionné. Alors il a voulu avoir un entretien avec ce Jésus. Comme il avait peur de se compromettre, nous l'avons vu, il est venu de nuit à lui, vous avez lu le chapitre 3. Mais voyez-vous, je vous dis, vous moquez souvent de Nicodème. Vous soyez au moins des Nicodèmes. Ayez le courage d'aller le trouver de nuit. Hein? Plutôt que de ne pas le trouver. Mais même si vous avez peur de vous compromettre, mais allez, faites cette démarche pour avoir un tête-à-tête avec lui. Mais allez-y aussi, non pas avec tous vos titres, parce que Nicodème est allé en disant « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu ». Et nous l'avons dit cet après-midi, quand il était en présence de Jésus, et il a vu qu'il y avait beaucoup de choses qu'il ne savait pas. Quand Jésus lui a parlé que si un homme ne naissait pas de nouveau, il ne pouvait ni entrer dans le royaume de Dieu, ni même le voir. Et qu'il fallait naître d'eau et d'esprit. Puis comprends-tu comment ces choses peuvent-elles se faire? Comment un homme peut-il en naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut rentrer dans le sein de sa mère et naître? Comprends-tu? Et pourtant il est docteur en Israël. Et Jésus lui dit, mais tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. Autrement dit, tu n'as jamais lu le chapitre 37 d'Ézéchiel? Parce qu'il aurait dû le connaître, que l'œuvre de Dieu que Dieu ferait pour ce peuple d'Israël et pour l'humanité, pour les hommes, c'est qu'il les purifierait lui-même avec des eaux pures et que lui-même enverrait son esprit qui ferait l'œuvre dans les cœurs et qu'il donnerait un cœur nouveau. Tu es docteur en Israël et tu ne fais pas ces choses. Lisez chapitre 37 d'Ézéchiel et vous aurez des nouvelles sur ce que c'est que cette naissance d'eau et d'esprit.
l'esprit. Et alors, évidemment, on peut simplifier les choses, puis dire, eh bien voilà, naître d'eau et d'esprit, la nouvelle naissance, c'est simplement le baptême. Mais tout le monde est baptisé aujourd'hui, hein, à peu près. Il suffit de naître dans une confession dite chrétienne, puis alors on est baptisé. Et puis voilà, on a l'étiquette de chrétien. Mais au nom de ce christianisme, qu'est-ce que la chrétienté a fait? Vous savez qu'au début, ceux qui étaient baptisés, c'était ceux qui avaient. Mais heureusement qu'il y a tout un travail théologique aussi qui se fait dans plusieurs églises, où l'on cherche à comprendre la signification profonde du baptême. Et l'on arrive quand même à un consensus. C'est que, qu'est-ce que c'est que le baptême? C'est pas l'effacement de la tâche originelle. Comme on l'a si souvent dit. Simplement, alors voilà, vous êtes baptisé, puis c'est fini. Parce que vous savez bien qu'on peut être baptisé, puis tuer, on peut être baptisé, puis voler, on peut être baptisé, puis commettre adultère. On peut être baptisé, puis divorcer. On peut être baptisé, puis faire des avortements. Et tout ce que vous voulez encore. Ça ne s'appelle plus péché. C'est la vie normale d'aujourd'hui. Vie tout à fait anormale. Lui qui appelle le jugement de Dieu sur ses transgressions de sa pensée, de sa volonté. Maintenant, ce qui est contre nature, on l'appelle naturel. Or, nous avons une grande compassion, même pour ceux qui commettent des péchés contre nature, que ce soit l'homosexualité ou autre chose. Mais nous ne pouvons pas dire que cela, c'est quelque chose de naturel. Parce que le jour où vous dites que c'est ça qui est juste, parce que c'est l'amour, n'importe comment, il n'y a plus de remède. Et alors, on en arrive au temps de Sodome et Gomorre, où l'on se prépare le feu du ciel. Parce que Dieu a de la passion. Mais quand les hommes, et quand les théologiens en arrivent même à dire que ça c'est naturel, pourvu qu'on s'aime, au nom de l'amour. Non, chers amis, nous disons que nous avons de la compassion pour tous ceux qui ont des tendances de ce genre, parce qu'on est peut-être avec ça. Mais est-ce que c'est ça qui est naturel? Que les femmes aillent avec d'autres femmes, que les hommes aillent avec d'autres hommes, et que ce soit ça qui soit naturel, bien sûr, parce que ça supprime les naissances, alors ça aide, hein, soi-disant. Quelque chose d'abominable. Mais est-ce que nous ressentons cela, ce péché qui pèse sur le monde, qui appelle le jugement de Dieu? Nous avons de la compassion, disons-nous. Mais nous appelons cela encore des tendances, des maladies. Nous appelons cela encore des infirmités. Et nous disons, il peut nous délivrer de cela. Parce qu'alors, celui qui a des tendances au vol, hein, comment est-ce qu'on l'appelle aujourd'hui? Un kleptomane. C'est naturel. C'est plus un voleur, c'est un kleptomane. Celui qui a des tendances à mettre le feu aux maisons, c'est un pyromane. C'est tellement beau tous ces noms, hein, kleptomane, pyromane. On va faire des chansons là-dessus. Alors, ben, toutes ces tendances-là, puis l'homosexualité, mais c'est l'amour. Oh. Vous n'y connaissez rien. Voilà où nous en sommes arrivés. Je sais très bien, hein, que quand on prêche la parole, on sera fusillé un jour. Mais c'est cette parole que nous devons vous annoncer. Parce que je suis dans cette seule frayeur. Je pense à Moïse, un homme de Dieu qui a conduit tout un peuple à travers le désert, et qui dans un moment d'impatience, lui qui était le plus doux des enfants des hommes, lui qui a manifesté tant de patience pour conduire ce peuple, pour un moment où il a perdu le contrôle, et où au lieu d'obéir vraiment à Dieu et de parler au rocher, où il a frappé le rocher, qu'est-ce qui lui est arrivé? Dieu lui dit, tu n'entreras pas dans le pays, parce que tu ne m'as pas honoré aux yeux du peuple. C'est grave d'être au service de Dieu. C'est un privilège. C'est une bénédiction. Mais c'est aussi une responsabilité. Et il y a des faux prophètes. Et même le prophète de Dieu, comme l'était Moïse,
peut se laisser surprendre par une faute. Et on a affaire à un Dieu qui est sérieux. Si vous voulez que Dieu, vraiment, soit sérieux avec vous, dans vos requêtes, dans vos demandes, et qu'il vous réponde, soyez sérieux avec lui. On ne se moque pas de Dieu. Et ce qu'il a parlé est écrit. Ce qu'il a dit, c'est écrit. Et nous croyons à cette parole. Donc, il faut comprendre cette nécessité d'une nouvelle naissance. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait d'une façon magique. L'eau dans l'Écriture est toujours le symbole de la parole de Dieu. Je pourrais vous citer une foule de passages, je vous en fais grâce. Mais je vous en supplie, étudiez la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole de Dieu. Et entrer dans l'eau, c'est aussi le symbole de la mort. Et le baptême, c'est le signe de notre identification au Christ mort et au Christ ensuite ressuscité. Naître d'eau, sortir de l'eau, sortir de cette parole. On est entré dans cette parole. La parole, on l'a entendue. C'est ce que l'apôtre Pierre développe. Hein. Vous avez été rachetés de votre vaine conduite, non par de l'argent ou de l'or, ni des choses précieuses, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Et puis, il nous dit comment nous sommes venus à une vie nouvelle, ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, donc il faut obéir à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par la semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu. Nous sommes régénérés par la parole de Dieu. Nous la croyons. Mais pour que cette parole devienne puissance de vie en nous, il ne suffit pas de la connaître d'une façon intellectuelle. Il faut qu'elle soit imprégnée du Saint-Esprit. Alors nous naissons de l'action de la parole de Dieu que nous prenons au sérieux et de la puissance du Saint-Esprit qui nous régénère et qui devient source de vie. Et alors ceux qui croyaient ainsi recevaient le signe de leur foi. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Par le baptême, ils manifestaient qu'ils renonçaient à leur vie passée, leur vie de péché, et qu'ils commençaient une vie vraiment nouvelle. Comment ces choses peuvent-elles se faire? C'est l'action du vent, l'action du Saint-Esprit. Le vent souffle où il veut, tu en entends le son, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Alors, évidemment, si je pensais que le baptême en lui-même sauvait, je me bagarrais sur la question du baptême. Mais comme je sais que ce n'est pas simplement le rite qui sauve, mais que c'est réellement de donner la signification profonde au seul baptême biblique, alors je ne me bagarre pas sur la question du baptême. Que les uns pensent ceci, que les autres pensent ça, ce qui compte, c'est de vivre profondément le sens de notre baptême. Quand on le comprend. Et cela, tous les jours. Je suis mort avec le Christ. Mais alors, justement, comment cela peut-il se faire? Eh bien, Jésus nous explique qu'il est venu pour rendre notre mort possible. Parce que, je l'ai bien compris, pour que je ne pêche pas, pour que je ne vive pas toujours dans le péché, il faudrait que je sois mort. Vous avez déjà réalisé cela? Il faudrait que je sois mort. Bien, Dieu me dit que quand il a donné son Fils, il n'a pas seulement donné son Fils pour qu'il meure pour nos péchés, ça c'est très facile à croire. Que Jésus-Christ soit mort pour nos péchés, qu'il ait porté nos péchés en son corps sur le bois, c'est très facile d'amener les gens à croire. C'est une bonne affaire. Au fond, tous les péchés que j'ai commis, Jésus les a pris sur lui, et puis il les a expiés, parce que Dieu est un Dieu saint, qui ne pouvait pas passer l'éponge sur le péché, alors il a fallu que justice soit faite, que la loi qui condamnait le péché soit satisfaite. Quand l'exécution a eu lieu, est-ce que la loi fait encore quelque chose sur un pécheur? Non. La loi est satisfaite, justice est faite. Mais est-ce que l'homme peut encore pécher une fois mort? Non, il est mort. Alors, vous arrivez là, à ce fameux chapitre 6 des Romains, qui nous montre que non seulement Jésus est mort pour nos fautes, que si à cause d'Adam, la faute a passé à tous les hommes, eh bien il nous montre qu'à cause du Christ, à cause de sa justice, la grâce qui opère le salut peut être donnée aussi à tous les hommes. Dieu, dans sa miséricorde, se glorifie vis-à-vis du jugement. C'est quelque chose de merveilleux, de penser que si à cause d'un seul homme, le péché a passé à toutes les descendants d'Adam, par la justice d'un seul Jésus-Christ, nous pouvons tous être justifiés. Et qu'il a tout accompli pour cela. Alors vous direz, ben c'est une bonne affaire, moi je veux me convertir, hein, comme on dit. Convertir au Seigneur, je crois au Seigneur, il a porté mes péchés, alors je suis maintenant sauvé, je crois. Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On va continuer de pécher. Péchons afin que la grâce abonde. Non. Mais si j'ai eu la vision de la croix, si je sais ce que c'est que la croix, si réellement la croix a un sens pour moi, qu'est-ce que je devrais avoir vis-à-vis du péché qui a conduit mon sauveur à la croix, même de mes péchés mignons, parce qu'il a souffert en sa chair, le seul qui ne devait pas mourir, qui ne devait pas souffrir, à cause de nos péchés, il a été l'homme de douleur. Mais ça ne parle plus au cœur aujourd'hui. On nous dira, mais si vous prêchez ça, vous viderez notre église. Que Dieu veuille qu'on vide toutes les églises, de tous ceux qui encombrent les églises encore, et qu'il y ait des nouvelles personnes qui viennent et qui croient à cette prédication-là, alors il y aura un renouvellement dans les communautés chrétiennes. Mais si vous n'avez que votre religion, et que vous vous glorifiez de votre religion, de vos œuvres, vous êtes un obstacle. Il y a des œuvres, mais qui sont le fruit de la foi, d'une foi vivante dans le Christ. Le Christ est venu pour rendre ma mort possible. Il me dit, je ne suis pas seulement mort pour tes péchés. Vous avez lu le chapitre 6 des Romains, je pense. Hein? Je vous l'ai demandé. Mais il m'a pris avec lui dans sa mort. Et alors c'est ça qui est difficile à croire. Croire que Jésus est mort pour nos péchés, c'est facile. Mais croire que nous sommes morts avec lui et que nous devons nous considérer comme morts dans sa propre mort, ça c'est difficile parce que notre expérience est toute contraire. Moi je me sens bien vivant. Et dans ce monde où il y a toutes les tentations possibles, toutes les convoitises, je sens que je serai porté à me laisser aller parce que ma chair, elle est faible. On l'a vu, hein. Oui, notre chair est faible. Et est-ce que vous croyez que votre conversion au Christ va améliorer votre chair? Votre chair restera la chair, le péché reste dans la chair, mais quand on est au Christ, le péché ne règne plus. Il est là. Et si je ne veille pas, je sais qu'il est là. Hein? Et si je ne veille pas, si je satisfais les désirs de ma chair, qu'est-ce que je ferai? Je pécherai. Mais le Seigneur me dit que le péché ne règnera plus sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la loi qui ordonne, mais vous êtes sous la grâce. Il m'a fait grâce. Je suis un gracié. Alors maintenant, parce qu'il m'a tellement aimé et qu'il m'a tout pardonné, quel est mon désir? De le glorifier. Ma vie n'est plus à moi. Elle est au Seigneur. Parce que Jésus n'est pas seulement mort sur la croix. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est ressuscité. Il est vivant, il n'est pas resté dans la mort, il est ressuscité, et où est-il? À la droite de Dieu. Et que fait-il là-haut?
Il intercède pour nous. Et tout ce qui s'est passé dans la vie et la mort de Jésus et sa résurrection doit se reproduire en nous. Et c'est cela que nous devons croire. Quand j'accepte Jésus comme mon sauveur, il me prend lui aussi et me conduit dans sa mort. Et comme lui est mort, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est mort? Vous le croyez? Mais quand il vous dit, par sa parole, que vous êtes mort avec lui, est-ce que vous le croyez? Vous me dites, mais je ne le sens pas. Ce n'est pas une question de le sentir. C'est une question de croire ce qu'il vous dit. Parce que vous attendez de sentir que vous êtes mort. Une fois que vous serez mort, vous ne sentirez rien. C'est ça? Croyez-le bien, ne soyez pas stupides. Je n'ai jamais pensé parler à des gens stupides. Mais je pense que je parle à des gens qui veulent croire cette parole. Alors, il l'a dit. Est-ce que je croirai plutôt mes sentiments ou bien est-ce que je croirai la parole de Dieu? Je croirai la parole de Dieu. Et dans la mesure où je crois la parole de Dieu, par le Saint-Esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, cette même puissance me donnera aussi la victoire sur le péché. Si je crois, si je dis vraiment, Seigneur, tu l'as dit, eh bien, je veux réaliser cette mort avec toi. Ça n'empêchera pas que le péché, lui, n'est pas mort. Le monde, il n'a pas changé, il y a toujours ses convoitises. Mais quand les convoitises se présentent à un mort, vraiment, qu'est-ce qu'il fait? Il est tenté? Il est mort? Non? Eh bien, c'est cela que le Seigneur vous donnera de réaliser. Mais si au contraire, tout en récitant votre prière, ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, vous courez vers le mal, vous dites, oh mais moi, je peux tout voir, je peux tout entendre, je peux me nourrir de n'importe quel bouquin, je peux voir tous les films pornographiques, ça me met en train. En train. Hein? Voilà ce que des gens nous disent. Ils ont besoin de ça. Oh mais ils sont chrétiens. Mais alors, quelle est leur vie? Hein? Quelles sont leurs pensées? Si je n'appelle pas péché certaines de mes pensées, et si je ne m'en juge pas, qu'est-ce qui m'arrivera? Ben, j'accomplirai des gestes, des actes. Mes pensées auront un prolongement audible, ce seront mes paroles, et un prolongement visible, ce seront mes actes. Je dois donc me juger de mes pensées et appeler mes pensées non pas des péchés mignons. Mais c'est tellement bon de pouvoir fermer les yeux et penser à des choses. Hein? Ça vous met en train. Ça vous met sur le chemin de la chute. On ne s'amuse pas avec cela. Mais quand la chair veut se manifester, puisqu'on la sait faible, on ne lui donne pas l'occasion. Et maintenant, pour poursuivre mon but, je sais maintenant que le Christ qui est mort et avec qui je suis mort est ressuscité et avec lui je suis aussi ressuscité et je suis où? En lui, dans les lieux célestes. C'est cela notre atmosphère. Nous devons avoir cette vie dans le céleste tout en étant encore sur la terre où il nous envoie pour rendre un témoignage, mais où il nous envoie équipés avec toutes les armes de Dieu pour que nous puissions résister à Satan et aux tentations. Nous sommes armés, mais est-ce que vous la connaissez, l'armure complète de Dieu, qui vous permettra de résister aux tentations et après avoir tout surmonté, tenir ferme? Parce que nous savons très bien que le péché est encore en nous, mais il ne règnera plus sur nous. Nous savons très bien que la chair est faible. Jésus nous a avertis. Mais nous ne donnons pas occasion à la chair. Il n'est pas mal de boire un verre de vin. Hein? Mais si je n'arrive pas à boire mon verre de vin sans vider le tonneau, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je coupe. C'est cela, crucifier la chair. C'est pas mal de prendre une chose ou une autre. Mais ce qui devient un esclavage, il y a des choses qui sont légitimes peut-être, mais si je sais que c'est une occasion de chute, j'ai à couper. Comprenez-vous? Parce que j'ai maintenant un but. Jésus-Christ étant mort, pour qui vit-il maintenant dans sa résurrection? il est dit qu'il vit pour Dieu. Alors c'est ça, aller jusqu'au bout. Maintenant, le Christ ressuscité, qui est votre vie, il vit pour Dieu. Alors, vous, quelle est votre vie? Quel est votre but dans la vie? Vivre pour Dieu. Est-ce que vous êtes décidé à cela? Vivre vraiment pour Dieu. Ça ne veut pas dire devenir prêtre ou devenir pasteur, devenir prédicateur. Mais là où vous êtes, dans la condition où vous avez été appelé, comprenez que vous êtes témoin de Dieu. Et agissez en conséquence. Vivez pour Dieu, quel que soit le métier que vous occupez, faites toute chose de cœur comme pour le Seigneur. Et ça sera cela la vraie évangélisation du monde. Au lieu de demander une foule de l'argent partout pour soutenir de grands mouvements, si chaque croyant, chaque personne qui est au Seigneur, vivait ce qu'elle doit vivre selon l'Écriture, eh bien, il y aurait des témoignages merveilleux et bouleversants. Et il y aurait des conversions qu'on n'attribuerait plus à des prédicateurs, mais qu'on attribuerait à la puissance de l'Esprit de Dieu qui a transformé les vies. Et c'est à cette transformation que nous devons travailler de tout notre cœur. Alors, j'arrive maintenant à comprendre comment cet échange se fait-il. Je renonce à ma vie, ça c'est évangélique, et j'accepte la vie de l'autre. Et quelle est ma vie? Ma vraie vie, c'est celle de Christ. Nous l'avons contemplé cet après-midi, et nous avons dit que nous avions le droit de dire que le Christ était notre vie. Sa sainteté, sa justice, c'est notre sainteté, notre justice. Sa vérité, c'est notre vérité. Sa lumière, c'est notre lumière. Je dis que bien souvent, tout cela est voilé en moi, mais la vraie mesure de ce que je dois être, je la vois en Jésus. Et je veux le regarder, lui, et laisser le Saint-Esprit en moi agir. Parce que c'est le Saint-Esprit qui opère notre conversion. Et il devient notre... L'habitation, il habite en nous. Et vous savez, le Saint-Esprit est une personne très sensible. Et il habite dans notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Au lieu que ce soit les sens de notre corps qui nous dominent, c'est le Saint-Esprit qui devient maître de nos sens. Et comme il a fallu un corps à Jésus pour se manifester, Dieu maintenant prolonge l'incarnation de son Fils par vos corps. Ce sont vos corps que vous donnez au Seigneur. C'est par vos mains que vous le servirez, par vos yeux que vous regarderez, qu'il regardera, par vos oreilles qu'il écoutera, par votre bouche qu'il parlera, par votre cœur qu'il aimera. Mais vous ne vous attribuerez plus aucune gloire. Vous donnerez toute gloire au Seigneur. Comprenez-vous? Notre vie est échangée. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et alors, le Saint-Esprit étant en nous, quand j'ai une pensée qui n'est pas à la gloire de Dieu, je contriste le Saint-Esprit et je suis averti intérieurement. Je sais très bien que ce n'est pas juste. Mais si je n'appelle pas cette pensée un péché, et si je ne m'en juge pas, la communion avec le Seigneur est interrompue. Je ne perds pas mon salut, je suis sauvé. Mais je n'ai plus la vraie communion avec Dieu. Et c'est pourquoi nous vivons dans le jugement de nous-mêmes. Et alors, le Saint-Esprit, n'étant pas contristé, il peut nous conduire dans la vérité. Mais c'est une vie de foi constante. On est sauvé par la foi et pour la foi, pour vivre une vie de foi quotidiennement renouvelée. Car il est dit, le juste vivra par la foi. Eh bien, c'est cette foi-là que je vous invite à posséder, il vous la donne. Et alors je disais, si Jésus et les apôtres nous parlent d'une vie victorieuse et abondante, pourquoi dans la pratique notre existence démantèle si souvent les vérités auxquelles nous croyons? Eh bien c'est parce que d'abord, tout en étant ressuscité avec le Christ, comme vous l'avez vu dans les Colossiens, au lieu de s'affectionner aux choses qui sont en haut, que ces choses célestes deviennent des réalités pour nous, les choses invisibles, parce que c'est vers elles que nous allons pas rester toujours dans ce monde,
Nous n'allons pas rester toujours dans le monde visible. Il faut que les choses invisibles deviennent capitales pour vous. Il faut que les choses célestes deviennent des réalités. Jésus le disait, si vous ne comprenez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment comprendrez-vous si je vous parle des choses célestes? Mais qu'est-ce qui comprend maintenant les choses célestes? Mais nous devrions les comprendre. Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Et puis, votre ancienne manière de vivre, bien vous y avez renoncé, et vos habitudes, vous vous en êtes dépouillés. Vous vous en dépouillez pour revêtir les habits du nouvel homme. Votre vieil homme, nous en parlerons demain, a été crucifié avec Christ. Il est mort, il est enseveli, et puis maintenant, vous êtes dans le nouvel homme. Mais évidemment, la nature, la chair est toujours là, avec le péché, mais maintenant, il y a le nouvel homme. Et le nouvel homme qui est créé en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Notre vie maintenant, elle est pour Dieu. Alors je termine. Pourquoi est-ce que si souvent, notre vie dément ce que la parole de Dieu nous dit? Parce qu'il y a une vie victorieuse. Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te parle, tu lui aurais demandé à boire, et il t'eût donné de l'eau vive, et cette eau serait devenue en toi un petit filet d'eau. C'est ça, votre traduction? Une fontaine qui jaillit en vie éternelle. Puis parlons du Saint-Esprit qu'allaient recevoir les disciples, il leur dit que des fleuves d'eau vive couleraient de leur sein. Alors pourquoi est-ce qu'il y a obstruction? Parce que nous contristons le Saint-Esprit. Il a rendu grâce, l'apôtre Paul, à son Dieu qui lui donnait non pas une victoire, mais la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a parlé de ce Jésus-Christ qui nous mène toujours en triomphe, manifestant partout l'odeur de sa connaissance, en tout lieu. Est-ce que nous y croyons, ces textes? Est-ce que nous voulons que ça devienne des réalités? Alors jugeons-nous. Et je dirais que même mes soucis, un jour Dieu me l'a fait comprendre, parce que je suis un homme soucieux de nature, que pour être débarrassé de mes soucis, qu'est-ce que je dois les appeler? Des péchés. Parce qu'il a dit, ne vous mettez pas en souci. Alors quand je me fais du souci, je pêche, je transgresse sa parole. Il a dit, ne vous mettez pas en souci. Moi, je prends soin de vous. Donc je manque de confiance. Lisez le chapitre 4 de Jacques, j'ai pas pu vous le lire parce qu'on peut pas tout dire en une fois, mais vous allez relire le chapitre 4 de Jacques et vous allez voir pourquoi bien souvent nous ne sommes pas exaucés parce que nous demandons pas ou parce que nous demandons mal pour satisfaire nos convoitises. Mais si vous demandez des choses selon la volonté de Dieu, et c'est facile de savoir quelle est la volonté de Dieu, regardez Jésus, il faisait toujours la volonté de Dieu. Est-ce que ça plaît au Seigneur que vous êtes en train de voir? Est-ce que vous pouvez regarder cela avec le Seigneur? Est-ce que vous pouvez lire cela avec le Seigneur? Est-ce que vous pouvez marcher avec le Seigneur dans cette compagnie? C'est à vous de répondre. Seigneur notre Dieu, nous te remettons la fin de cette journée. Et ce que nous te demandons, c'est que maintenant chacune de nos âmes ayant tête à tête personnelle avec toi, non pas avec des hommes, mais avec toi, et que tu nous amènes toi-même à une conviction profonde et à cesser d'être irrésolu, mais que tu nous amènes à nous donner entièrement à toi, en te faisant confiance, comme Marie t'a fait confiance, que quand on s'abandonne à toi, tu accomplis tout ce que tu as dit, qu'il nous soit fait selon ta parole. Pour la gloire du Père, au nom du Fils et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.